liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 21, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, pour garder les bonnes habitudes, Manu, tu vas nous réciter le sommaire.
Semaine assez tranquille, avec un gros sujet. Des choses qui reviennent en fait sur la table. Hein. L'open bar, l'innovation urbaine, donc un peu d'architecture. L'open core, la technologie, la politique, la loi renseignement et... truc dont on avait déjà parlé là aussi, sur la Russie, qui a des ambitions du côté du libre.
Next Impact, le discret contrat de 11 millions d'euros entre l'État et Microsoft Irlande. Un article de Xavier Berne. Ça n'est pas l'accord open bar Microsoft Défense, c'est deux nouveaux ministères qui ont l'air de faire à peu près la même chose.
Bah, ils veulent faire la même chose.
Ça fait des petits, ça fait tout plein de trucs. Bah, en fait, le contrat open bar, donc pour rappel, c'était un contrat passé en mode sous-marin avec Microsoft et la défense française.
Microsoft Irlande,
Microsoft
exactement.
Irlande, voilà. Donc
c'est moins cher et voilà, ça évite de payer des impôts.
Voilà, évasion fiscale et compagnie, que le ministère avait le droit de taper dans tous les logiciels de Microsoft à peu près sans payer, on régularisait juste à la fin. Et donc là, bah, y a des documents qui ont été publiés il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, bah, sur les petites lignes dans le fichier, eh ben, y a un contrat de 11 millions de passés entre des ministères et Microsoft Irlande.
Bravo aux gens de Next Impact qui ont déterré cette information, parce que c'est eux qui ont fait le boulot, c'est Xavier Berne. Hein, donc c'est du vrai boulot de journalisme. Alors évidemment, notre position par rapport à ça, c'est à peu près la même que l'accord Microsoft Défense. On n'a pas encore fait de communiqué là-dessus, parce qu'on est en train de creuser. On a lancé des sondes à droite à gauche pour savoir ce qui se passe.
Oui, parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Il y en a juste une petite ligne, on n'a pas d'informations
sur... C'est très discret. Voilà. Donc en gros, manifestants qui ont essayé de passer ça en loose day. Donc bon, c'est rageant. On sait qu'il y a plein de trucs où le gouvernement fait vraiment des pas vers le libre et on a cette impression
et les administrations.
Voilà, et que ça va vraiment dans le bon sens. Mais ça a l'air ambigu. On ne sait pas si c'est en gros pour jouer un petit peu en gros prolongé en attendant d'avoir les moyens.
Souvent,
de
c'est comme ça qu'ils le présentent quand ils sont mis au pied du mur. C'est-à-dire que oui, on utilise actuellement du Microsoft. On ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Vous comprenez, nos utilisateurs ne comprendraient pas. Pour faire perdurer en attendant que, eh bien, il faut continuer les contrats et les contrats type open bar, ça a l'air de leur plaire parce que c'est simple. En fait, quelque part.
Et puis bon, voilà, il ne faut pas imaginer que l'État, c'est quelque chose de monolithique. Il y a probablement plusieurs forces à l'intérieur et des gens qui ont des stratégies dans un sens ou dans l'autre. Et il est possible qu'en interne, il y a des trucs qui ne soient pas complètement réglés. En tout cas, on va se bouger les fesses là-dessus et on va leur demander des comptes. Urban New, innovation urbaine, Open is the new green. Un titre en anglais, mais...
très long article.
Voilà, mais l'article est bien en français et je l'ai trouvé plutôt intéressant.
Donc sur un nouveau site, enfin un site qu'on ne connaît pas, d'urbanisme, architecture et tout ce qui est la ville, hein, globalement.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'en parlait pas beaucoup dans les revues de presse précédentes, mais bah, apparemment, toujours le côté libre, open, fait encore des émules. Et donc là, c'est sur la partie architecturale, tout ce qui est innovation, voilà, dans les bâtiments, les constructions...
Les processus
de conception. Et voilà, pareil avec toute la partie redistribution, partage communautaire, etc.
La participation des futures personnes qui utiliseront les bâtiments. Mmh. Et alors, ça voilà, peut voilà. Dire...
Il y a un chapeau d'introduction hein, qui place le contexte. Et ensuite, c'est une interview de Alain Renck, voilà, qui je suppose quelqu'un qui est un urbaniste ou un architecte, et bah, qui explique toute cette démarche-là, avec cette idée que faire un projet, c'est de la technique, mais c'est aussi une dimension sociale, et qu'on va plus vite, qu'on a plus d'idées, plus d'innovations, en faisant appel à tout le monde, en étant dans une démarche ouverte, libre, et il cite explicitement le logiciel libre.
Il y a l'air d'y avoir un vrai engouement dans ce sens-là, donc le New Green, bien parce que ça c'était à la mode il n'y a pas si longtemps, il semblerait, et donc là l'open, il n'y a pas que dans l'architecture, l'urbanisme qu'on en parle, donc ça nous fait plaisir, puisque tout ça, ça découle de la même philosophie qu'on défend. Là, vraiment quelque chose d'intéressant.
Voilà, puis ça montre bien bah, que ce qu'on a lancé avec uniquement l'informatique libre, en fait, ça peut se mettre dans plein d'autres sauces. Du coup, là, avec l'architecture, on l'a avec le numérique, enfin, toute la partie animation, la culture, etc. Et donc, en fait, il y a vraiment tous les avantages, on les retrouve à chaque fois, le partage communautaire, la contribution, la liberté des utilisateurs. Et donc, ça marche vraiment dans quasiment tous les domaines, ou sûrement tous les domaines.
Journal du net, open source ou open core, pourquoi s'en soucier? C'est une tribune de HH Badani, donc je suppose que c'est une traduction. Et ce gars-là bosse chez Red Hat, donc il faut situer. Hein, Red Hat, c'est en gros la plus grosse boîte qui fait du logiciel libre.
En bourse, hein, carrément, ouais. Plus d'1 milliard de... valuation de valeur hein, boursière. Mmh.
Et donc, il décrit en fait deux modèles, open source, open core.
Alors, c'est quoi la différence? En gros, l'open core, c'est des boîtes qui essaient de profiter de l'open source, en fait, qui récupèrent des morceaux, deux morceaux de logiciels libres pour l'intégrer dans une solution propriétaire. Et donc, on n'a pas accès à tout. Et puis, ils essayent de surfer, en fait, sur la vague de l'open source, du libre et tout ce qui est l'économie qui en découle, en refermant l'intégralité du modèle. Et comme ça, ils essayent de manger à tous les
horaires de l'extension. Voilà. Ou des fonctionnalités qui vont être propriétaires. Donc, en gros, il y a un noyau qui est plus ou moins libre, mais tous les trucs qui rendent le logiciel utilisable ne le sont pas.
Donc, l'auteur...
ils démontrent tout ça en expliquant que c'est bidon.
Voilà, et il montre alors la différence finalement entre les deux, c'est des différences qui sont pas nouvelles, hein, donc on retrouve avec le propriétaire, c'est la différence entre l'achat initial, on achète une licence, on achète un droit d'utilisation initial, ou au contraire, ce que proposeront les gens qui font souvent du libre, et pas que, c'est plutôt des abonnements, des choses où on va payer de manière récurrente, où on contribue au développement de manière initiale, mais on n'a pas à payer un droit d'usage.
Une licence de démarrage, ouais. Je trouve que c'est intéressant que ça vienne de Red Hat, parce que Red Hat, bon, ils font de l'informatique professionnelle, et notamment des serveurs, et il y a quelqu'un, comme c'est du libre et qu'on peut reprendre et qu'on n'a pas d'obligation de payer quand on reprend, il y a une autre distribution de serveurs qui s'appelle CentOS, et qui en gros repompait de chez Red Hat. Hein, donc
ils repartaient des sources, ils recompilaient tout, puis ils donnaient ça gratuitement, quand Red Hat fait tout payer.
Et ça existe encore, et ça existe toujours. Et donc c'est Red Hat... continue à défendre ce modèle alors qu'il pourrait avec cette histoire dire on se fait avoir ceci cela. Red Hat existe toujours, Red Hat est la plus grosse boîte dans le logiciel libre, ils font du bénéfice, ils marchent bien, et donc ça démontre bien que Red Hat vend du service, ils font payer là où CentOS fait
moins payer pour les accès au code logiciel, voilà. Et la facilité en fait d'usage, et donc pour avoir cet accès il y a un service qui est derrière, hein. Des serveurs qui hébergent les logiciels, et donc finalement
on a deux éléments qui utilisent le même logiciel mais finalement ne vendent pas le même produit, puisque chez Red Hat, on a plein de services, on paye plus cher, mais on a plus d'éléments, alors que CentOS, en gros, on se démerde. Hein. Alter Info, la technologie ne peut se concevoir isolée de la politique. Un article de Rafael Rico Rios, qui est là encore une traduction, puisque cet auteur est un Vénézuélien, et donc il parle de l'usage du logiciel libre et de son importance. C'est un projet qui s'appelle Canaima. Alors, ça doit être en espagnol, et personnellement, je ne parle pas la langue. Et c'est un long article, une longue interview.
Donc, repris de Rebellion, un article du 13 mai.
Non, c'est des trucs de gauchistes, tout ça. Hein.
Bah oui, il y a un petit peu de ça, on le retrouve.
T'excuses pas, Manu, c'est... Tu sais, on n'en meurt pas, hein. C'est pas une
maladie. Non, mais là, clairement, il y a un parti pris, et pourquoi pas, après tout. Tout le monde reprend le logiciel comme il le veut. Donc là, c'est un article conséquent, et qui s'impose, et qui parle du libre, et de comment on peut l'utiliser d'un point de vue révolutionnaire.
Révolutionnaire, parce que c'est pas le propos du Venezuela, mais il y a une idée d'indépendance nationale, de construire une alternative, parce qu'on sait que la position du Venezuela, elle est pas très confortable, et qu'ils ont pris des options contre les États-Unis, ou en tout cas en refusant de rentrer dans ce modèle impérialiste, et je trouve que le propos de l'auteur est extrêmement pertinent, parce qu'il analyse bien l'articulation entre cette question de la technique, la question sociale qu'il y a derrière, la question politique, et j'ai trouvé vraiment ce texte, qui est long, hein, mais vraiment très intéressant.
Et en fait, ça fait le projet Canaima, en fait, c'est de remonter un système d'exploitation, donc une distribution GNU Linux, on va dire étatique, enfin gérée par le Venezuela. Donc ça prend le contre-pied complet de ce qu'a pu être fait avec par exemple le contrat Open Bar Microsoft Defense.
Oui.
Voilà, donc c'est vraiment, on essaye de sortir de là, on essaye de vraiment contrôler nos données. Donc du coup, c'est très politique parce que du coup, on garde le contrôle dans l'État,
de nos données, de nos outils, des
utilisateurs, des compétences. On réinternalise tout chez nous, donc on est vraiment indépendant, on n'est plus dépendant de la NSA ou de Microsoft ou autre. Et donc c'est vrai que ça a vraiment un très fort impact.
On n'est pas tout à fait dépendant de la NSA, c'est juste qu'on y est soumis.
On y est très soumis, voilà.
C'est un peu différent.
Mais voilà, au moins, eux, ils sont très indépendants. Et le jour où il pourrait y avoir des gros problèmes en dehors de leur pays, eux restent indépendants et n'auront pas de retombées, ou en tout cas beaucoup moins violentes que ce qu'on pourrait avoir si Microsoft se mettait à déconner par chez nous. Donc voilà, c'est vrai que ça a un gros intérêt aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe. Ils étaient un peu précurseurs, ils ont peut-être senti le vent tourner, quoi.
Donc en tout cas, quelque chose d'original, hein. On n'a pas beaucoup l'occasion de voir ce genre d'article.
Et en fait, c'est aussi un contexte complètement différent. Donc du coup, c'est vraiment très intéressant de voir comment tous les principes dont on parle régulièrement sont réappropriés, réutilisés dans un contexte qui est très différent du nôtre. L'Obs, loi renseignement, et si le Sénat nous sauvait, un article d'Andrea Fradin. Donc, loi sur le renseignement, ce qu'on appelle la loi de surveillance.
Et les boîtes noires qu'on installerait chez tous les fournisseurs d'accès.
Mm-hmm. Et donc là, manifestement, au Sénat, qui pourtant a la réputation d'être nettement plus à droite, plus rétrograde, plus mou, etc., manifestement, ça résiste nettement plus qu'à l'Assemblée nationale.
Ah, c'est même plus que nettement plus. Hein. Ils ont vraiment les crocs là et ils n'ont pas l'intention de se laisser faire. Alors que effectivement, à l'Assemblée nationale, il y avait un peu le jeu du gouvernement. Il y avait
ils sont passés en force.
Mais après, il y avait pas mal de jeux de jambes politiques à droite à gauche.
En gros, il y a pas de séparation des pouvoirs avec le Parlement.
Je suis contre, mais je vote pour. Mais voilà, enfin, c'était des trucs bizarres.
Je m'abstiens, tout ça.
Je m'abstiens. Ouais. Mais là, en fait, les sénateurs, on s'attendait pas à ça du tout de leur part. Mais ils ont vraiment l'intention de pas se laisser faire sur cette loi, de faire appel à des vrais techniciens pour vraiment comprendre de quoi ça parle.
Oui, c'est un des trucs qui est courageux, c'est qu'ils ont dit expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire parce que vos trucs sont beaucoup trop vagues, on n'est pas informaticien, on comprend rien et on veut des explications.
Donc en gros, ils revendiquent qu'ils ont du temps et qu'ils ne sont pas à la botte du gouvernement, donc ils vont aller en profondeur. C'est leur revendication et pour le coup, ils agissent là-dessus. Donc il y a Next Impact qui liste un petit peu de manière assez amusante. Il y a pas mal d'amendements qui sont déposés en ce moment même, qui prennent le contre-pied parfois, qui approfondissent d'autres fois, qui sont assez étranges dans une loi qui est de toute façon super bizarre au départ, qu'on n'aime pas. Donc il y a quelque chose d'assez amusant, on ne sait pas trop ce qui va ressortir.
Voilà. Et puis même moi, pour travailler avec les cafés vie privée sur ce sujet-là et avec la quadrature du net, autant avec les députés, c'est nous qui avions dû aller les chercher et compagnie. Et là, dès l'arrivée des sujets de loi auprès du Sénat, ils sont tout de suite venus nous voir en disant est-ce que vous ne pourriez pas nous briefer un peu là-dessus ? Malheureusement, je pense que la loi sera votée quand même. Mais...
Tu veux dire qu'ils vont t'inviter au palais du Luxembourg
J'ai déjà fait un tour à l'Assemblée nationale.
Mais là, c'est le Sénat, c'est autre chose.
Sénat, voilà.
Il va falloir que tu te mettes au cigare, fais gaffe.
Ouais, on verra bien.
Les Échos, la Russie veut s'affranchir d'Apple et Google en lançant son propre OS, un article de Nicolas Richaud.
Ah bah tiens, encore un.
Oui, bah pourquoi pas.
Donc c'est après... un OS de téléphone portable, hein, voilà. Pour le coup.
Ouais. Après le Venezuela, du coup, la Russie qui veut aussi se lancer là-dedans et créer leur propre OS pour éviter de dépendre de tous les gros méchants qui sont autour d'eux.
Donc les GAFA et puis surtout les États occidentaux, puisque d'une manière ou d'une autre, ça passe par les fourches codines de nos institutions, et parce que nous, on est impliqués dedans aussi. Et donc la Russie, qui se met un peu en opposition, c'est pas la première fois qu'ils en parlent, de développer des alternatives. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils développeraient cette alternative, qu'ils sont motivés pour le faire, en se basant sur du logiciel libre.
Effectivement, et c'est là où l'auteur de l'article a raté quelque chose, parce qu'en introduction, il dit Arnaud Montebourg, on avait parlé, on s'est moqué de lui, en disant que c'était ridicule.
On s'était moqué de lui.
Voilà. Oui, mais sauf qu'on s'était moqué de lui en lui disant un OS national n'a pas de sens. Dès lors qu'on utilise du logiciel libre, on a déjà dépassé toutes les frontières, et donc la question, c'est pas national, pas national. C'est un OS qu'on maîtrise. Et c'est exactement ce que les Russes prétendent faire. Alors moi j'attends de voir si l'ouverture complète va vraiment leur plaire.
Oh oui.
Parce que bon, un truc ouvert de la part des Russes, ça serait quand même étonnant.
Sachant qu'en théorie ils peuvent reprendre, il y a des distributions chinoises, donc communistes en théorie. Ouais. Donc ils ont plein de points communs.
Communistes.
Oui, alors, bon, rouge.
On en a quand même très très loin. Alors, au secours.
Asiatique.
Oui.
Ouais. Bon. Anti-occidental. Allez.
Ouais. Voilà, ils peuvent tout à fait prendre du logiciel libre et puis remettre des gros blocs de verrouillage propriétaires.
Mais carrément, ils peuvent essayer de bloquer les nœuds Tor, ils peuvent essayer de bloquer le chiffrage
dans leur système.
Mettre des backdoors dans le système d'exploitation, d'interdire beaucoup de choses à leurs utilisateurs.
Donc ça ne garantit absolument rien. En tout cas, ça montre que cette question de l'indépendance informatique, de la maîtrise, cette dynamique nationale et tout ça, c'est manifestement quelque chose qu'elle vend en poupe ailleurs que chez nous.
Ils le revendiquent pas que pour eux, ils le revendiquent pour les BRICS, donc Brésil notamment...
L'Inde, enfin voilà, tous les pays.
L'Afrique du Sud, il me semble.
Tous les pays pas très occidentaux, en fait.
Oui,
voire occidentaux.
Et donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant, mais c'est pas la première fois qu'ils en parlent. On va voir quels efforts ils font et à quel point ils reversent dans la communauté leur développement. Et puis, est-ce qu'ils laissent leur développement être scruté par la communauté ? Ça va être amusant.
J'attends de voir. Hein. Très bien, on a fait le tour de cette revue presse. Merci Nicolas, merci Manu.
À la semaine prochaine, Luc.
Salut tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vineau.